l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Immo et achetez-louer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Kioké.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission réalisée en partenariat avec le site achetez-louer.fr et en partenariat également avec Guy Hoquet. Pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra.
Bonjour Fabrice, vous allez bien ?
Super bien. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro ?
Eh bien, nous allons d'abord nous intéresser à l'actu avec notre revue de presse spéciale IMO, toutes les news et infos à retenir jusqu'aux plus insolites. Et ce mois-ci, on s'est posé cette question sur la réforme du DPE, le diagnostic de performance énergétique qui d'ailleurs évolue. Qu'est-ce que cela va changer pour les acheteurs et les vendeurs ? C'est la question qu'on se pose cette semaine. C'est donc la réforme du DPE.
Oui, d'ailleurs, dans la deuxième rubrique, vous connaissez les mots de l'IMO. On écoutera vos réponses à ce sujet. On verra si nos concitoyens sont intéressés par ce fameux DPE. Dernière rubrique de ce magazine. On terminera par cette rubrique que vous affectionnez tant, la météo.
Eh oui, la météo de l'IMO. Toutes les tendances pour votre achat immobilier dans le neuf, dans l'ancien, ainsi que la météo des taux. Est-ce le moment d'investir en cette période de Covid ? Est-ce que les taux immobiliers sont aussi bas qu'il y a quelques mois ? On en parlera dans un instant.
Voilà. Alors, pour nous accompagner, on n'a pas mes deux invités. Stéphane Fries, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes le président de Guy Hoquet. Vous avez commandé, justement, on attend vos commentaires experts, justement, sur le DPE. Et puis Aurélie Miribel, bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de CIM Immobilier et Immo Liaison. Et merci de nous accompagner. Ce n'était pas prévu, mais on est ravis de vous accueillir. Allez, on démarre tout de suite ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat.
De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse.
La revue de presse, chaque mois, nos journalistes épluchent la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops, les chiffres. Alors, on le sait, les Français ont toujours envie de devenir propriétaires, mais leur projet a évolué. C'est ce que nous raconte Nicolas Tarade. On l'écoute.
Crise ou pas crise, on l'a déjà dit, on va le redire, les Français ont toujours autant envie d'investir dans la pierre. Une étude BVA pour Dreamkill, un des spécialistes de l'estimation immobilière, montre que 17% des Français ont toujours un projet immobilier dans les 12 prochains mois. Oui d'accord, mais pour quel profil, me direz-vous ? Le profil de ces Français n'a pas évolué par rapport aux années précédentes. Les jeunes de 25 à 34 ans sont toujours 30% à déclarer avoir un projet dans les 12 mois à venir. Cette intention est également plus marquée chez les personnes appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures ayant des enfants. En revanche, ce qui a évolué, ce sont les projets en eux-mêmes. Parmi les Français qui ont un projet immobilier, 1 sur 2 déclare l'avoir fait évoluer en raison de la crise sanitaire. De manière générale, c'est le type de logement recherché, le lieu d'achat qui ont le plus évolué. Par exemple, 32% des Franciliens ayant un projet immobilier ont choisi de modifier le lieu de leur acquisition, tout comme 24% des personnes appartements au CSP+, plus d'espace, plus de verdure, et pour ça, ils se disent prêts à mettre la main à la poche. Le prix maximal alloué a également été source de nouvelles réflexions pour 18% des Français ayant un projet immobilier, tout comme la taille du logement pour 15% d'entre eux. 13% des répondants, encore un chiffre, ont l'intention d'acquérir une résidence secondaire au cours de l'année. C'est notamment le cas pour 14% des Franciliens ayant un projet immobilier. Cette hausse peut s'expliquer évidemment par le besoin d'évasion lié à la situation sanitaire actuelle.
Besoin d'évasion, effectivement. Les Français, on le voit, ils ont toujours envie d'acheter. Alors plus grand, plus de verdure, on l'a noté. Et également, pourquoi pas, on est prêt à payer tout ça. C'est une bonne nouvelle pour vos différents réseaux, Aurélie ?
Oui, on a pu effectivement le constater. Après, notamment le premier confinement, il y a eu vraiment une poussée de la demande vers des produits, entre guillemets, de meilleure qualité, plutôt vers les campagnes, des biens plus grands avec un extérieur, appartements obligatoirement avec un extérieur. Ouais. Oui, voilà, effectivement, on a eu cette...
Question, est-ce que ça se confirme, cette tendance, ou est-ce que là, avec de nouveau des mesures couvre-feu, etc., c'est en train de se calmer ?
Oui, cette tendance aujourd'hui se confirme. On a vu 19% de maisons en plus vendues l'an dernier. Donc c'est bien ce qui se confirme. Nicolas Tarade parlait aussi de transfert des lieux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les grandes agglos, les prix stagnent peu ou prou sur les grandes agglos. Et on voit bien que ça augmente légèrement en périphérie, en première et en deuxième couronne, pour ne parler que d'Île-de-France. Mais ça vaut aussi pour Lyon, pour Toulouse, Marseille ou Montpellier.
C'est vrai que les Français ont envie d'acheter, hein, de devenir propriétaire, mais il y a toujours quelque chose qui coince quand on leur pose la question. Ils trouvent que les honoraires des agences immobilières sont trop souvent trop chers, hein, c'est trop élevé quand on va vendre son bien et qu'on s'adresse à une agence. Et justement, on va en parler avec Vincent Favero qui nous explique pourquoi.
C'est un grand serpent de mer qui revient très souvent dans les conversations. Les commissions touchées à chaque vente par les agents immobiliers sont jugées trop élevées par les Français. C'est le résultat d'une étude récente d'Opinion System que détaillent nos confrères du Parisien.fr. Le rapport honoraire-service obtient la plus mauvaise note, 6,5 sur 10. Pour expliquer cette note, Jean-David Lépineux, le directeur général et cofondateur d'Opinion System, avance plusieurs explications. Selon lui, toujours dans les colonnes du Parisien, la loi qui impose un délai de 3 mois entre le compromis et l'acte de vente est très mauvais pour la relation client-agence. Car passé ce délai, le vendeur ou l'acheteur a quelque peu oublié son agence et le peu de contact après la signature de l'acte renforce l'idée que les services rendus ne sont pas au niveau du prix affiché. Alors comment s'en sortir et faire remonter la note? Le président de la FNIM explique de son côté qu'une meilleure explication et un meilleur détail de ce que recoupent les commissions pourraient renforcer l'adhésion à ce prix. Autre travail à faire, possiblement en amont cette fois de l'acte de vente, car souvent les primo-accédants viennent du marché locatif qui est souvent géré par les agences et la gestion locative reste l'une des facturations les plus opaques pour les Français, avec souvent le sentiment que l'agence ne fait que prendre un pourcentage du loyer pour faire le lien avec le propriétaire. Dans ce modèle, un renforcement de la présence de l'agent par une simple communication déjà et par ensuite plus de services pourrait alimenter davantage le lien avec les clients et ainsi remonter la note et la cote, car la profession d'agent immobilier est l'une des plus mal aimées des Français selon un sondage de l'IFOP aux côtés des journalistes, des politiciens et des banquiers.
Ah, les clichés ont la vie dure. On est dans le lot, hein, Alexandra,
oui,
c'est pas terrible.
On est tous dans le
journaliste, garagiste, allez, agent immobilier, même combat. Je voyais quand même hocher la tête sur le service, peut-être cette preuve de faire service pour justifier de ses honoraires. On a l'impression voilà, qu'on donne mandat, on n'a plus de nouvelles, et puis tout à coup, pof, ça sort. C'est important d'ajouter du service, de montrer en fait tout le cheminement et tout le travail qu'il y a derrière.
Alors, on va reprendre dans l'ordre inverse. Je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, la position de Jean-David Lépineux, de Jean-Marc Torollion, ou même sur la gestion opaque. S'agissant maintenant de notre positionnement dans les métiers préférés ou pas, 55% aujourd'hui des Français disent faire confiance à leur agent immobilier. Donc, en revanche, quand il s'agit de payer, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc, on a déjà, on ne perçoit pas suffisamment, et je pense que c'est dans la formation que ça se joue, c'est à l'agent immobilier de bien expliquer le travail. Je suis d'accord avec Jean-David Lépineux de dire qu'entre le compromis et la vente, il y a un sentiment d'abandon, puisqu'il ne se passe rien du tout, et donc après, on doit payer la somme arrivée chez le notaire. Donc, je pense qu'il faut expliquer et garder le lien. Après, est-ce que c'est cher ou pas cher? Ça dépend du service déjà rendu, de l'accompagnement qui est fait. Il faut aussi voir tout le travail en amont qui est fait pour présenter un bien. C'est pas une visite où on dit cuisine à gauche, salon à droite. Il y a un vrai travail de fond pour aller chercher et les gens qui font ce métier le savent. Et puis en dernier lieu, c'est un métier où on est payé au résultat. Ils sont assez peu nombreux, ces métiers-là, où vous n'êtes payé que quand tout le monde est content. Tout le monde est satisfait. L'acheteur a acheté et le vendeur a vendu. Et c'est qu'à ce moment-là que l'agent immobilier est rémunéré.
Le métier d'agent immobilier, un métier mal aimé, Aurélie ?
Pourtant, il me semblait quand même que l'image des agents immobiliers avait été quand même redorée depuis plusieurs années. Peut-être que le travail à faire des agents immobiliers, c'est de travailler plus sur la qualité perçue du service rendu et faire plus de retours à leurs clients de façon plus régulière sur l'intégralité des services qui sont faits pour eux au quotidien. Voilà, et sinon globalement je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être aussi noter le détail de l'intégralité des prestations qui ont été faites sur la facture de l'agence.
Ça pourrait être un atout supplémentaire. C'est qu'il y a beaucoup de travail, on a l'impression.
Bien sûr.
Vous connaissez les métiers, il y a beaucoup de travail et puis il y a beaucoup de formation aussi. On ne s'improvise pas non plus agent au milieu. Il faut dire aussi que c'est un tiers de confiance. On a, je pense, beaucoup de gens qui essayent de faire ce métier eux-mêmes, qui vendent un appart et qui en reviennent finalement.
C'est un gage de sérénité. Moi-même, pour vendre mon bien immobilier, il y a quelques années, je suis passée bien évidemment par quelqu'un de mon réseau pour vendre mon bien. Je ne me voyais pas toute seule recevoir des personnes toute la journée pour faire des visites, constituer le dossier, vérifier la solvabilité des acquéreurs, etc., etc., etc.
Alors justement, on va passer à notre sujet du jour, ce qui n'a rien à voir donc avec l'agent immobilier. C'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique qui évolue et qui devient opposable. On en parle de plus en plus et toutes les informations, on les retrouve avec Vincent Favero.
Du changement dans le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE qui orne chaque annonce immobilière aujourd'hui. Le gouvernement va le faire évoluer au 1er juillet prochain pour pouvoir inclure la production de gaz à effet de serre du logement et plus seulement sa consommation d'énergie dans le DPE. Il y aura donc une note qui se verra augmenter ou baisser en fonction des gaz à effet de serre produits par le bien. Dans la liste des nouveautés aussi, un DPE qui ramène les logements électriques à une production de CO2 beaucoup moindre. De 210 grammes de CO2 par kilowattheure produit à l'électricité auparavant, le gouvernement vient de décider de passer à 79 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Un changement qui permettra de ramener les 600 000 logements chauffés à l'électricité dans la catégorie E du DPE, si c'est possible. Ce ne seront plus donc des passoires thermiques au sens de la classification. En revanche, tous les logements chauffés au fioul vont se voir attribuer bien souvent les lettres F ou G, car beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre. Car pour les lettres F ou G du DPE, les logements seront considérés comme des passoires énergétiques et devront donc être rénovés avant 2028 pour passer en E à minima. Le gouvernement souhaite ainsi réduire l'empreinte carbone du pays et se voudra contraignant pour cela. Dès 2028, il ne sera plus possible de louer un logement dit passoire énergétique. C'est une des nouveautés. Enfin, dernière évolution, le DPE n'est plus seulement informatif. À partir du 1er juillet, le DPE réalisé devient opposable. Un acheteur ou locataire qui constatera un écart entre sa consommation d'énergie et celle indiquée sur son diagnostic pourra en refaire un et demander une compensation financière à son propriétaire ou au vendeur du bien s'il constate un delta important. Un DPE revu et corrigé donc pour encore toujours lutter contre les passoires thermiques qui, au nombre de 4,8 millions aujourd'hui en France, doivent disparaître progressivement et permettre de résorber les émissions de gaz à effet de serre du pays.
Voilà pour ce nouveau DPE, un diagnostic de performance énergétique. Alors on va voir, messieurs, dames, dans un instant, si ce sujet vous inspire. Mais tout d'abord, on va passer la parole aux gens qu'on a rencontrés et on leur a posé justement la question. On écoute tout de suite les mots de l'IMO.
De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'IMO.
Les mots de l'IMO, chaque mois, on part à votre rencontre pour vous donner la parole, les auditeurs, sur les sujets immobiliers qui vous intéressent. C'est la rubrique donc les mots de l'IMO et on leur a posé cette question sur l'évolution du DPE. Qu'est-ce que ça va changer? On va les écouter. La première question, c'était justement le DPE. Kézako, vous allez voir, c'est pas évident.
Non, ça ne dit rien.
Non, je ne sais pas du tout ce que c'est le DPE.
Pour moi, ce serait les lettres qu'on voit quand on loue ou on peut acheter un appartement ou une maison. Et A, B, C, D, E, F.
C'est le A, B, C, D, F, c'est bien ça?
Et voilà, ça a l'air d'être ça. En tout cas, quand on titille un peu, on voit que il y a des lueurs. On se souvient vaguement de ces notations de A à G avec ces codes couleurs, comme on peut trouver sur les frigos. Alors justement, si on creuse, une fois qu'on a expliqué ce que c'est, j'aurais posé la question, est-ce que ça va changer leur perception?
Bah oui, effectivement, c'est important pour moi d'avoir cette notion-là pour savoir. Bon, déjà, je pense que ça influe aussi sur ma consommation, sur mes factures. Et puis après, pour avoir aussi une consommation plus écologique. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Après, il faut vraiment qu'elle soit communiquée et que les gens qui ont envie d'acheter aujourd'hui puissent vraiment être au courant.
Évidemment, parce qu'on recherche toujours de la qualité dans un produit. Donc, mieux il est noté, plus il y a de chances qu'on l'achète. Je pense qu'en effet, ça va avoir une influence sur le prix parce qu'on paye la qualité de nos jours. Donc, on va pas payer quelque chose de très cher si c'est de mauvaise qualité. On va payer quelque chose de cher si c'est de bonne qualité. Donc, évidemment que ça va créer un fossé dans les prix. Il y aura le bas de gamme et le haut de gamme. Et du coup, tout le monde va se ruer sur ce dont il peut payer. Mais en tout cas, vaut mieux prendre du haut de gamme.
Non, c'est une bonne chose. Ça pourrait éviter d'avoir plus de passoires énergétiques ou en tout cas d'avoir des logements mal isolés. Et du coup, ça avait créé un vrai fossé entre ceux qui peuvent entre guillemets se permettre et qui ont les moyens de se payer un bien avec un DPE correct, opposé à ceux qui n'ont pas les moyens. Et manifestement, on est quand même assez nombreux.
Et voilà, on est assez nombreux. Moi, j'aime bien le côté. Il y a le bas de gamme, il y a le haut de gamme. Hein. C'est comme le bon chasseur, le mauvais chasseur. Évidemment, ça va se payer. Est-ce que votre sentiment là, quand la loi a été annoncée, voilà, ce nouveau DPE, est-ce que vous avez le sentiment que ça révolutionne quelque chose ou finalement, bon, c'est une nouvelle réglementation, quelque chose qui s'ajoute à ce qui existait déjà, Stéphane Fries?
Alors, non, c'est une très très bonne chose. C'est une excellente chose qu'aujourd'hui le DPE soit opposable. Ça fait 14 ans qu'il existe. Il existe depuis 2006 déjà. Et il était facultatif. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas opposer. Ne pas opposer le DPE, ça veut dire que si même j'ai menti sur la lettre, le locataire ou l'acheteur ne pourront pas se retourner. Aujourd'hui, opposable, ça dit que le locataire ou l'acheteur pourra se reposer, s'opposer à la vente, éventuellement entamer des démarches contre le vendeur ou alors le bailleur. Donc c'est une très très bonne chose. Il faut juste dire une chose, c'est que le bâti, la déperdition de chaleur et les logements énergivores qui sont au nombre de près de 5 millions.
5 millions,
en France,
a dit Emmanuel Wargon, la ministre du Logement.
C'est 4,8 millions, je crois même. C'est 19% des gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose qui pollue. Et on sait que si on s'y attache, on va forcément réduire notre empreinte énergétique sur le monde. Et je crois que ça fait sens pour tout le monde. Pour nous, agents immobiliers, ça ne change rien. Sauf qu'on va pouvoir avoir peut-être un critère vert pour mieux vendre des achats, des biens demain. Donc c'est vraiment une bonne chose demain. Et en plus, ils vont commencer à le faire de façon didactique et pédagogique. Ils vont y mettre de la couleur. Ils vont expliquer aussi, ils vont mettre à côté des lettres ce qui est prévu très très rapidement. C'est de mettre à côté des lettres combien ça fait en trajet automobile, combien il faut pour passer...
Pour illustrer finalement,
pour
ce
illustrer,
que c'est exactement.
Combien il faut d'argent pour passer d'une lettre à une autre. Puis ensuite, après, il y aura une sanction qui arrivera en 2028. En 2028, vous ne pourrez plus louer ni vendre les logements énergivores.
Mais ça laisse un petit peu de temps. Aurélie Miribel, votre réaction justement sur ce nouveau DPE.
Effectivement, c'est très bien de manière générale, y compris pour... dans cette optique de diminution de la pollution. L'acheteur va pouvoir, ou le locataire, va pouvoir faire des travaux de rénovation en cas de logement vraiment mal noté, ce qui lui permettra d'être mieux logé et de pouvoir avoir une diminution de ses factures sur la consommation énergétique.
Et oui, on rappelle, c'est effectivement l'énergie et puis les gaz à effet de serre aussi. Ça englobe tout et c'est important.
Et c'est vrai que quand on veut louer un appartement aujourd'hui, je crois qu'en bas, vous avez le DPE maintenant sur les agences, sur les annonces
des agences. Il va se renforcer.
Ah, je ne suis pas sûre que la personne qui veuille louer, moi je sais que j'étais à la recherche d'un bien à louer, je n'ai pas forcément regardé le DPE. C'est pas quelque chose, je ne suis pas...
Oui, mais attention, parce qu'on sait que la nouvelle génération est très sensible à ces problèmes écologiques, justement. Et moi, je pense justement que ça va devenir un critère à prix équivalent. Évidemment, il vaut mieux avoir quelque chose dans le vert que dans le rouge.
Le fait qu'on puisse le rendre opposable, c'est vous rentrez avec une fausse information, vous la regardez ou vous ne la regardez pas.
Vous mesurez tout.
Vous vous rendez compte que votre chaudière est complètement HS, que vos fenêtres ne sont pas isolées, que ça va vous coûter entre 4... Les fenêtres, c'est entre 2 et 4 000 euros en moyenne en France. Vous allez devoir payer ça, à un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir si vous pouvez vous retourner contre votre bailleur ou votre vendeur. Et le DPE opposable, c'est exactement ça. Donc c'est une vraie sanction qui va permettre de rendre cet outil plutôt efficace. Et c'est une bonne chose après dans l'absolu,
oui,
parce
sûr,
que quand
planète,
vous avez isolé correctement, vous payez moins en énergie. Donc toutes ces informations didactiques à mettre en place seront mises dans les annonces des PE.
Et surtout, Stéphane, ça risque de faire baisser le prix des logements mal isolés parce que certains propriétaires n'auront pas les moyens de faire les travaux nécessaires pour obtenir le fameux A.
Alors, peut-être pas pour le A, en tout cas aujourd'hui est en question pour le 2028 les F et les G, qui seront considérés comme passoires thermiques et donc énergivores forts. Elles ne seront plus possibles à la location. Mais il y a beaucoup d'aides dans l'intervalle entre 2021 et 2028. Il y a la prime Rénov' qui a été encore rénovée, qui était l'ancien site, aujourd'hui qui était beaucoup plus clair, qui a introduit comme critère le revenu des ménages et qui, je crois qu'il y a 90 000 déjà primes qui ont été données depuis depuis que ça a été changé. Donc c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Il faut rénover notre parc aujourd'hui immobilier.
Ouais, très bon sujet qu'on abordera très prochainement également. Allez, voilà pour les mots de l'IMO et la revue de presse. Tout de suite, on passe à notre dernière rubrique, la météo de l'IMO.
De l'immobilier à l'habitat, la météo de l'IMO.
On vous rappelle le principe de cette météo. On s'intéresse chaque mois aux grandes tendances chiffrées du marché de l'immobilier, marché du neuf, de l'ancien, niveau des prix, taux des crédits immobiliers. Pour chaque rubrique, Alexandra, vous nous dites si le climat est favorable ou pas. Et on va s'intéresser tout de suite à une nouvelle rubrique, c'est l'évolution des loyers.
Ah, bonne question, mon cher Fabrice. Alors attention, de gros nuages actuellement sur la location. Avec la crise sanitaire, on a assisté au retour sur le marché classique des biens loués auparavant par des plateformes comme notamment Airbnb. Cela se traduit donc par une baisse des loyers parce qu'il y avait de nombreux biens qui étaient loués auparavant sur Airbnb. Plus de touristes, plus de personnes qui se déplacent et donc conséquence de plus en plus de biens en Airbnb sur le marché, avec un paradoxe dans de nombreuses villes, notamment de l'ouest de la France et de la petite couronne parisienne, notamment Montreuil ou encore Boulogne. Les loyers des meublés sont moins élevés que les loyers des locations vides. Avant, c'était l'inverse. Quand on louait un meublé, c'était un petit peu plus cher. Et bien là, on l'a constaté, je l'ai d'ailleurs personnellement constaté, les loyers avec les loyers déjà meublés, les appartements meublés, sont aujourd'hui quasiment moins élevés ou même peut-être à taux égal en termes de tarifs, même si la surface du loyer, la surface de l'appartement meublé est plus grande.
Sympa si on vient d'arriver et qu'on n'a pas de meubles.
C'est voilà,
une sacrée économie. On a des chiffres. À Rennes et à Nantes, les loyers des meublés reculent respectivement de 11,5% et 9,9% sur un an. On s'intéresse maintenant au marché du neuf.
Alors, côté immobilier neuf, nuages et orages en vue. Le marché immobilier a connu des bouleversements en 2020 en raison de la crise sanitaire, évidemment. Alors, au niveau national, le baromètre digital de l'immobilier neuf, publié chaque trimestre, relève que les prix moyens du mètre carré ont enregistré une hausse de 1,2 sur le dernier trimestre de l'année par rapport au précédent, mais une légère baisse par rapport au dernier trimestre de 2019 de 0,9%, avec une grande disparité. Les prix du neuf ont particulièrement augmenté dans certaines métropoles du fait du manque d'offres. Ça grimpe notamment à Paris, c'est très logique, ou encore dans le Grand Paris, mais au-delà, c'est assez mitigé dans certaines villes, notamment telles que Dijon, Saint-Étienne et Nancy sont en recul. Donc vraiment, dans les grandes villes, on voit que l'immobilier neuf, eh bien, forcément, devient de plus en plus cher.
Ouais, effectivement, on termine avec les taux immobiliers. Alors, malgré la crise sanitaire et économique, l'immobilier est un marché qui se porte plutôt bien, voire très bien. Il faut dire qu'avec des taux d'intérêt historiquement très bas, on rappelle, on est sur les 1,17% en janvier 2021. Les Français sont toujours plus nombreux à contracter un crédit immobilier. Mais attention, ça pourrait peut-être évoluer dans les prochains mois.
Oui, en effet, cette tendance à emprunter, vous êtes nombreux à vouloir emprunter pour acheter votre maison ou votre appartement, c'est une tendance que les autorités financières veut en quelque sorte tenter de calmer, alors que les ménages français sont particulièrement endettés, vraiment plus endettés d'ailleurs que certains ménages européens. Alors conséquence, la Banque de France vient d'indiquer que les recommandations émises fin janvier 2021 par le Haut Conseil de stabilité financière deviendraient obligatoires dès cet été, c'est-à-dire encadrées par la loi. 25 années donc maximum pour un crédit, on ne pourra pas emprunter au-delà de 25 ans et un taux d'effort qui ne devra pas dépasser les 35% assurance incluse. C'est interdit également caractéristique d'interdire de facto certains ménages les plus fragiles d'investir, c'est-à-dire que si on gagne 3000 euros net par mois, on pourra s'endetter qu'à hauteur de 900 et quelques euros. Donc, et puis certaines professions, on en parlait déjà dernièrement, par exemple les médecins, etc., les professions libérales, on leur prête de moins en moins, c'est de plus en plus difficile.
Il y a un commentaire justement sur ces infos, Stéphane Fritz.
Aujourd'hui, on voit le durcissement des conditions d'octroi qui a été fait en fin 2019. Avant, on empruntait sur 30 ans. Là, c'est plus que 25. On allait au-delà de l'effort des 33%. Donc, on est remonté à 35% dernièrement. On allait au-delà. Pourquoi ? Considérant qu'on considérait peu ou prou le reste à vivre. Et quelqu'un qui gagne 10 000 euros, il peut emprunter plus de 35%. Et c'est ça, c'est les investisseurs. Et notamment aussi, on a commencé à voir, quand ils ont durci les conditions d'octroi, en début d'année, on a commencé à voir sortir de l'assiette certaines professions libérales, certains cadres aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. La première chose que ça a touché, c'est pour ça qu'on a demandé, nous, le réélargissement des conditions d'octroi, c'est parce que ce sont les ménages les plus faibles qui sont impactés, qui vont pas pouvoir avoir accès au crédit.
C'est des conditions qui restent malgré tout globalement assez favorables. Peu nombreux sont les Français, me semble-t-il, qui empruntent sur une durée de 30 ans. Donc jusqu'à 25 ans, on est encore sur des conditions qui sont plutôt souples et favorables pour le marché de l'immobilier en 2021.
Vous avez le sentiment que justement le fait que ça devienne enfin, un peu gravé dans le marbre de la loi, hein, ça va peut-être se durcir et ça va compliquer certains dossiers ? Primo-accident en particulier ?
Ouais, j'ai pas ce sentiment-là aujourd'hui. Il y avait déjà eu un petit durcissement en fin d'année 2020. Et l'accès au crédit a toujours été aussi... est resté très large malgré tout.
En tout cas, Aurélie Mirabel, vous avez tout à fait raison. Hein, 1,17% sur 20 ans. Mm-hmm. Je suis assez persuadé que dans quelques années, parce qu'on voit des frémissements du côté de l'inflation aux États-Unis, peut-être bientôt en Europe, et on se dira... Ça valait quand même le coup. Donc, il faut quand même en profiter. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci, Alexandra.
Merci à vous, Fabrice. Merci à vous tous.
Merci à nos invités. Stéphane Fries, président de Guy Hockey, Aurélie Mirabel, présidente de CIM Immobilier, directrice générale de CIM Immobilier et Immoliaison. Merci à Jason Pinheiro pour la réalisation. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro. Et je peux faire d'ores et déjà un petit teasing. On va s'intéresser justement aux honoraires des agents immobiliers. Est-ce que c'est trop cher ? Rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Immobilier à l'Habitat.
De l'Immobilier à l'Habitat, une coproduction Radio Immo et achetez-louer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.